Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir. La cour d'assises de Bamako a jugé la semaine dernière Aliou Mahamane Touré, l'ex-commissaire de la police islamique de Gao, a été condamné à une peine de 10 ans de prison. Des mesures de réparation ont été également accordées aux victimes. Quant au procès d'Ahmad Al-Faki, l'ancien combattant islamiste jugé pour la destruction des mausolées de Tombouctou, il est contraint de verser plus d'un milliard de francs CFA pour le dédommagement par la Cour pénale internationale. Ces verdicts sont-ils satisfaisants? Comment un indigent peut-il s'acquitter d'un montant aussi élevé? Voilà entre autres questions auxquelles on va tenter d'apporter des réponses avec nos invités sur ce plateau. Il s'agit de Baba Dakono, il est juriste. Bonsoir.
Bonsoir.
Mamadou Diouara est sociologue. Bonsoir, monsieur Diouara.
Bonsoir.
El Béchir Senghare va représenter l'Amnesty International. Il sera au téléphone avec nous. Et El Hadj Garba également, secrétaire aux affaires juridiques, réseau régional des associations de victimes de l'occupation du Nord. Lui aussi, il sera au téléphone. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Bienvenue à vous tous.
Le Grand Dialogue.
Alors, procès Aliou Mahamane Touré et Ahmad Al-Faki, quel enseignement pour le Mali? Donc, nous allons suivre la réaction du procès Aliou Mahamane, nous allons suivre la réaction de la partie civile, bien sûr.
Un sentiment mitigé dans la mesure où on voulait que la Cour retienne l'infraction de crimes de guerre. Malheureusement, la Cour n'a pas accepté cette demande parce que la Cour a pris tout simplement coup et blessure aggravé. Or, les coups et blessures aggravées correspondent effectivement à l'infraction des crimes de guerre, c'est-à-dire que les infractions qui ont été commises sur des civils qui n'ont pas parti au combat. Mais de l'autre côté, il y a une condamnation. La condamnation suppose qu'effectivement, la justice a compris les actes que ce monsieur a posés et entend y mettre fin en le condamnant pour que d'autres aventuriers ne prennent pas le même chemin que Aliou Mahamane Touré. Il y avait 4 victimes qui ont été vraiment satisfaites, ils l'ont déclaré au micro de certaines presse, mais il y a 2 victimes qui ont été carrément déboutées. Il s'agit d'une dame victime de tentative de viol, et puis il y a une autre victime dont l'enfant de 12 ans a été enlevé par le mouvement.
Alors, vous venez de suivre la réaction de la partie civile dans le procès Aliou Mahamane. Alors, Baba Dakono, en tant que juriste, quelle appréciation vous faites de ce verdict-là?
Non, le verdict qu'on doit placer dans le contexte plus large de la tenue de ce procès, c'est une première et elle fait suite à l'amendement des textes en la matière pour prendre en charge ces questions de terrorisme. Et dans ce contexte, c'est une excellente avancée pour la justice malienne quand on sait que les prisons au niveau du Mali et par extension au Niger sont remplies de personnes qui sont présumées djihadistes ou ayant accompli des faits qualifiés de terrorisme. Donc en fait c'est une grande avancée au-delà de la question du verdict qui, comme tout verdict de la justice, est diversement apprécié. Mais je crois que ce soit la partie civile, toutes les parties engagées dans ce procès reconnaissent quand même le fait qu'il ait été reconnu coupable et satisfait à plus d'un titre tout ce qui le mettait en cause. Donc déjà c'est une réussite pour la justice malienne. C'est une première à saluer et une grande avancée pour traiter, y compris les questions de droits humains, parce que quand les prisons sont remplies de personnes qui sont présumées auteurs d'actes terroristes et qu'on n'ait pas la capacité de les juger, c'est une atteinte aux droits humains qui sont atteintes, qui est défendue par des organisations de défense des droits de l'homme comme la MDH qu'on vient d'écouter tout à l'heure.
Mais et le cas d'Ahmad Al-Faki de la Cour pénale internationale?
Al-Faki également, je crois qu'il faut peut-être rappeler, même si c'est brièvement, tout le processus, parce qu'Al-Faki, ça a commencé depuis 2015, et c'est également une première en ce qui concerne cette question. Tout à l'heure, vous avez parlé également du fait que comment un indigent va s'acquitter de ses moyens. C'est qu'en fait, en l'espèce, il faut savoir qu'il y a des procédures qui sont prévues. Au cas où à l'exemple d'Alpha qui ne serait pas dans les dispositions pour pouvoir s'acquitter de cette somme, il y a des fonds qui ont été collectés pour les victimes. On va en ce moment puiser dans ces fonds pour pouvoir faire face au dédommagement qui a été prononcé par le juge. Et dans ces deux cas, dans le premier Alpha qui, il faut aussi rappeler que toute la disposition qu'il avait, et on l'a même écouté il y a une année quand il a présenté ses excuses, il s'est repenti et a demandé que les personnes qui sont tentées de suivre la même voie que lui n'empruntent pas ce chemin. Donc au-delà même de ce verdict, dans ce procès, on a l'un des rares moments où en fait un présumé terroriste est capturé vivant et qu'on arrive à son procès et que lui-même puisse s'adresser à de nombreux autres jeunes qui sont tentés de prendre le même chemin que lui. Donc en fait tout, ce sont des exemples de réussite dans ces procès et qui, comme tout procès, peut ne pas être partagé par le verdict, peut ne pas être partagé par tout le monde.
Ok, alors merci beaucoup Mamadou Diouara, vous êtes sociologue. Alors sur le plan sociologique, quel peut être la quand même de ces deux verdicts là ici au Mali principalement?
Bon, merci beaucoup déjà. Je me réjouis beaucoup des réponses données par Baba qui sont vraiment très claires et concises. Je crois que ça répond en grande partie à la question. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le procès de Aliou, en fait, dans la conscience populaire, c'est plutôt le procès du Moujaou. Parce que l'homme, les gens ne voient pas que c'est un procès de la personne. On voit ça comme étant le procès du système qu'il incarnait, de l'organisation qu'il incarnait, avec toute la charge, n'est-ce pas, des actes qui ont été commis par cette organisation. Donc, il faut reconnaître que, comme Baba l'a dit, ce procès marque une victoire importante pour le Mali, qui démontre sa capacité à faire face par son appareil judiciaire à ce genre de situation, parce que beaucoup de gens avaient demandé à ce qu'il soit transféré à la Cour pénale internationale. Et ça, c'est déjà quelque chose de très bien, parce que la symbolique a une valeur significative. C'est un message que l'État malien, à travers son appareil judiciaire, envoie aux populations maliennes en général et aux victimes en particulier, pour leur dire « oui, nous n'étions pas là quand les actes se passaient, mais nous sommes là pour apporter le minimum de justice possible. » Ça, c'est quelque chose qui est très positif, hein, et très important. Maintenant, 10 ans ou plus, bon voilà, la justice est souveraine, elle décide et on se range derrière sa décision. Je pense que voilà, ce qui a été fait est bon. Maintenant, pour le cas d'Alpha Ki, je crois que je saurais difficilement dire plus que ce que Baba a dit. La symbolique était forte. C'est une première. Le message est passé. Rien que ça, c'est une grande victoire.
Oui, mais dans le cas Mahamane Aliou, le fait que le commandant de zone Yoro et le juge islamique Hamadi, les autres chefs hiérarchiques et compagnons de cellules ont été libérés et sont actuellement à Gao, que dire d'une telle justice?
Alors, c'est ça aussi la difficulté. C'est que nous ne sommes pas en mesure d'être dans les couloirs de l'appareil judiciaire et savoir réellement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est en jeu. Mais je vous rappelle qu'on est dans un processus de justice transitionnelle. Et je crois que Baba a fait référence tout à l'heure quand il disait qu'il y a des fonds qui sont collectés qui peuvent être utilisés au cas où l'intéressé n'est pas en mesure de répondre. C'est un des principes du processus de justice transitionnelle. Et ce processus de justice transitionnelle est particulier. Okay. Il a ses réalités propres. Nous ne pouvons pas ici juger des raisons pour lesquelles ces gens ont été libérés. S'il y a des preuves contre eux individuellement, c'est la justice qui est compétente pour le savoir et pour pouvoir trancher là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un premier pas qui vient d'être fait.
Okay.
Aliou a été jugé, il a été condamné. Le processus continue, parce que dans le processus de justice transitionnelle, il y a des étapes.
Okay.
Il y a la première étape qui est le rétablissement de la vérité, où on écoute des gens. Et actuellement, la Commission de vérité, justice et réconciliation est en train, dans toutes les régions du Mali, d'auditionner les victimes.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Donc, il y a tout un processus qui va nous permettre, à la fin, d'établir les responsabilités.
Très bien.
Et de pouvoir trancher.
Ok, merci beaucoup. El Hadj Garba, est-ce que vous êtes au téléphone?
Oui, je suis à l'écoute.
Voilà, vous en tant que secrétaire aux affaires juridiques du réseau régional des associations des victimes de l'occupation du Nord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces deux verdicts-là, le cas Mahaman, Aliou Mahaman et le cas de Al-Faki? Est-ce que vous êtes satisfait?
Je dirais plutôt que nous sommes vraiment ravis. Nous sommes ravis en ce sens que nous sommes en train de constater un début de dénouement dans le processus judiciaire de cette affaire qui pratiquement est en train de terroriser l'ensemble des victimes du Mali et plus particulièrement celles des régions du Nord. Mais je vais revenir d'abord sur le jugement de Aliou Touré. Puisque nous sommes un peu désolés d'être seulement entendus par quelques victimes. Au contraire, nous sommes organisés dans toutes les régions du Nord, en association, en réseau. Donc, on aurait dû nous appeler pour être constitués d'une façon générale, partie civile. Il ne s'agit pas seulement des 3 ou 4 victimes dont on estime. Ça dépasse, nous sommes au-delà de ce nombre dont la comparution a été faite devant cette cour d'assises. Donc par ailleurs, on aurait été cité aussi. Malgré quand même être victime, nullement le dédommagement n'a pas été parlé, n'a pas été dit. Donc alors que c'est un droit fondamental également pour la réparation. Donc il ne s'agit pas seulement de dire la justice, mais il s'agissait de dire la vérité. Il s'agissait aussi de faire la réparation. D'autant plus que certaines personnes sont en train de souffrir, se trouvent dans des situations très critiques. Notamment nos frères chauffeurs qui seraient être victimes amputés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent être dans la vie? On ne les considérait pas non seulement des handicapés, mais au contraire, ils sont des victimes de droit commun. Donc vraiment, justice doit être faite. Non seulement en réparation, en justice et en vérité. C'est là où nos problèmes se basent, où nous sommes vraiment touchés, parce que jusque-là, nous ne connaissons pas la vérité. C'est vrai, justice a été dite pour un début dans ce processus de condamnation, mais vérité n'a pas été dite jusqu'à preuve du contraire, d'autant plus que j'entendais mon autre collègue disait le processus de la justice transitionnelle. Donc pratiquement, c'est un mécanisme qui a été mis en place, mais son fonctionnement pose problème dans les régions du Nord. Pratiquement, si je prends le cas de Tombouctou, ça n'existe pas dans les cercles. Nous avons 5 cercles, seul à Tombouctou, le cercle de Tombouctou, c'est en tout cas le bureau d'antenne de Tombouctou. Donc pratiquement, c'est pas suffisant, il y a tout de nuit. Donc là, quand même, le problème de fonctionnement de la justice transitionnelle pose problème. Pour le moment, c'est ce que j'ai à dire.
Ok, voilà, El Béchir.
Concernant Al-Faki.
Oui. Allez-y.
C'est ça. Concernant Al-Faki, vraiment, nous remercions la Cour pénale internationale, quand même, d'être vraiment au devant des choses. Certes, même si le dédommagement il est symbolique, mais en tout cas, quand même, c'est un soulagement pour les populations de Tombouctou. Parce que je disais que ces monnaies font vivre vraiment des communautés, pas une personne, mais des communautés. Le tourisme fait vivre vraiment l'ensemble de la population de Tombouctou. Puisque pratiquement à Tombouctou, nos seules activités, quand même, c'est le commerce, c'est l'artisanat, c'est le tourisme. Mais aujourd'hui, vous savez que toutes ces choses, toutes ces activités n'existent plus. Donc nous avions vraiment des soucis. Mais nous pensions que rapidement, la Cour pénale mettra vraiment le fond à la disposition de ces victimes-là pour que des activités régénératrices de revenus, pour que vraiment, les modèles puissent être vraiment réhabilités à nouveau, malgré que l'UNESCO a fait quelque chose, mais quand même, c'est insuffisant pour nous. Parce que jusque-là, les cimetières sont là, les enclos ou bien les clôtures sont endommagées, détruites pratiquement par endroits. Donc vraiment, il faudrait quand même que ces fonds-là soient mis à disposition rapidement.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Je vous rappelle que vous êtes sur le studio Tamani qui émet depuis la maison de la presse. Procès Aliou Mahaman Touré et Ahmed Al-Faki. Quel enseignement pour le Mali? Et pour en débattre, Baba Dakono est juriste, Mamadou Diouara sociologue, El Béchir Senghare de Amnesty International et El Hadj Garba qui est de l'association des victimes de l'occupation du Nord. Alors El Béchir Senghare, vous au niveau de Amnesty International, est-ce que vous vous êtes satisfait de ces deux verdicts-là?
Oui. Bon, nous quand même, nous sommes toujours satisfaits lorsque quelqu'un répond de ses actes. Et que ce soit l'autre de à la Haye ou bien celui qui vient d'être condamné à la cour d'assises, eh bien, je crois qu'ils ont répondu de leurs actes et ils ont été condamnés. C'est déjà quelque chose.
Allô?
Ah oui?
Oui, El Béchir, est-ce que votre appareil est sur haut-parleur?
Oui, El Béchir, est-ce que votre appareil est sur haut-parleur?
Non, non, non.
Ah d'accord, ok, parce que le son est... Bon, d'accord, on va essayer de faire avec. Alors, mais que ce jugement ait lieu quand même avec d'autres compagnons de cellules qui ont été libérés. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire à propos d'une telle justice?
Bon, c'est là-bas que ça ne va pas. Parce que il faut pas que celui de la cour d'assises soit un démon de la farce. Et il était commissaire. C'était toute une organisation qui avait une emprise totale sur une région, qui terrorisait toute une population. Mais on comprend mal qu'il soit le seul à répondre. Et pendant que ces congéliers sont libres et se promènent à Gao, ça, ce n'est pas normal.
Oui, mais est-ce que vous pensez que les chefs qui étaient en train de payer leur salaire, tels que Ahmed Tilemsi et Habdada, est-ce qu'on pense qu'ils ne pouvaient pas être jugés par contumace, par exemple?
Ils ne pouvaient pas être jugés par contumace, par exemple?
Mais il y a le principe de la condamnation par contumace. Pourquoi il est seul? C'est cette question que moi je me pose. Pourquoi il est seul? C'est cette question qu'on doit se poser.
Alors, merci beaucoup. Alors, Baba Dakono, est-ce qu'il y a une explication sur un plan juridique à propos de ces jugements-là, des absents quand même notoires, ceux qui payaient les salaires et ils sont pas là, et ceux qui étaient avec lui dans la cellule, par exemple, et ils ont été libérés. Alors, juridiquement, qu'est-ce qu'on peut dire à propos?
Peut-être qu'il ne faut pas chercher la réponse forcément dans le juridique. Dans des situations pareilles, il y a une dimension politique. On a parlé tout à l'heure de symbolique. Et Diouara a rappelé le fait qu'à travers le procès de Aliou, c'était aussi le procès du Moujao. Au-delà de ça, lui-même, certainement qu'à un moment, il s'est senti, quand il a vu les autres être libérés, pour des raisons certainement politiques, parce que la justice, ni le procureur ni les autres acteurs de la justice n'ont donné aucune explication par rapport à ces libérations. Donc, nous connaissons le contexte malien. Il est dominé par d'importantes crises qui peuvent être amenées à prendre des décisions politiques, à tort ou à raison, bien entendu, mais peut-être que l'explication ne se trouve pas forcément dans le fondamentalement juridique. Et elle peut être politique, elle peut s'expliquer par beaucoup d'autres choses que nous ne maîtrisons pas.
Mais est-ce qu'il y a espoir de voir un jour des compagnons, par exemple, d'Al-Faki devant la Cour pénale internationale ou d'autres juridictions dans l'avenir?
Je crois que l'espoir, je vais revenir à mon propos de départ, l'espoir, il faut le voir dans cette capacité nouvelle de la justice malienne à statuer sur des questions, à pouvoir rendre la justice aux personnes qui ont été victimes face à ces cas-là. Il faut le voir à ce niveau. Et au-delà de ça, on est dans un processus. On ne peut pas se mettre devant les acteurs qui aujourd'hui ont beaucoup plus d'éléments que nous, ont beaucoup plus d'informations. informations que nous et certainement taisent ou disent des choses pour des raisons qui nous dépassent. Mais dans tous les cas, l'espoir est permis. Je pense que c'est pas Amnesty International, c'est pas l'Association malienne de défense des droits de l'homme qui va se plaindre du fait que le Mali ait aujourd'hui cette capacité à juger ses prisonniers qui dérangeaient dans les prisons parce que jusque-là étaient présumés coupables.
Ok. Alors, Mamadou Diouara, quelles peuvent être les conséquences, en tout cas sur le plan sociologique quand même, que des victimes côtoient avec leurs bourreaux, par exemple, qui sont là dans le cas de Gao? Quelles peuvent être les conséquences?
Bon, d'abord, je crois qu'il faut voir un peu les choses telles que Baba les a décrites tout à l'heure. C'est-à-dire que on est dans un contexte politique très complexe pour le Mali. N'oublions pas qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, notre État n'a sa souveraineté que dans presque un tiers du territoire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et les différents acteurs qui opèrent sur le terrain ont encore la possibilité d'agir et de faire beaucoup de choses. Donc ce qui fait que ceux qui gouvernent savent des choses que nous ne savons pas et qu'ils peuvent ne pas pouvoir nous dire, à raison ou à tort, comme Baba l'a dit tout à l'heure. Maintenant, pour ce qui concerne le terrain, il faut dire que le Mujao a cohabité avec les populations à Gao. Certes, il y a eu des victimes, mais il y a eu aussi de la coopération. Pendant toute la période de l'occupation, tout le monde n'a pas été à Liou dans le Mujao. Et il y a des noms, quand on les cite, à Gao, ça sonne plus comme des amis que comme des ennemis, souvent. Et tout ça, ce sont des réalités du terrain. Je suis de Gao, même si je n'étais pas à Gao pendant l'occupation du Mujao. Je crois que je suis sérieusement au parfum de la situation. Maintenant, qu'est-ce qui se passera sur le terrain? Je suis sûr que dans le contexte actuel, aucun de ces bourreaux ne serait à mesure d'aller s'en prendre à une de ses victimes dans la ville de Gao. Et vu la présence de l'ensemble des acteurs et la présence de l'État et le niveau d'organisation des choses, il faut remettre les choses un petit peu dans leur cadre et donner encore une chance au processus en cours de faire ses fruits. Parce que, pour revenir un peu sur ce que l'autre là a dit de Tombouctou, celui qui est intervenu tout à l'heure, j'ai cru qu'il était de Tombouctou, le premier intervenant au téléphone.
Voilà. En fait, c'est la réaction de la partie civile.
De la partie civile, voilà. Donc, pour revenir un peu à ce qu'il a dit, bon, oui, il y a des gens qui n'ont pas été cités, mais est-ce que ces gens ont porté plainte? C'est aussi ça. Quand on est victime, on se déclare officiellement, on porte plainte et on mobilise des preuves qu'on est victime pour établir la culpabilité de la personne en question. La justice ne peut pas trancher en imaginant. Elle a besoin d'éléments concrets, d'éléments réels, pour qu'elle puisse trancher et puis établir vraiment les charges contre la personne. Maintenant, si la personne suppose que, bon, parce que j'ai été victime, on est censé prendre en compte ma situation, sans amener les éléments de preuve et sans constituer une action en justice, je ne pense pas, je ne suis pas juriste, hein, mais bon, voilà, le juriste pourra confirmer si j'ai raison ou tort, je ne pense pas que la justice puisse faire grand-chose en la matière. Mais moi, je me dis encore une fois, hein, nous sommes dans un processus de paix qui prend en compte un processus de justice transitionnelle, et ce n'est pas en un jour que ça se résout. Comme son nom l'indique, c'est un processus, ça prend du temps. On vient de faire un premier pas qui nous donne de l'espoir pour la suite. Nous restons vigilants, nous continuons de mobiliser des preuves contre les gens qu'on pense être coupables, pour que ce processus-là puisse véritablement établir la vérité et empêcher l'impunité. Parce que l'accord pour la paix et la réconciliation est clair dessus. C'est un principe, celui de la non-impunité.
D'accord. Voilà. Ok. El Hadj Garba. Allô, El Hadj Garba.
Oui, je suis à l'écoute.
Voilà, les victimes que vous représentez là, comment ils vivent cette cohabitation quand même avec des gens identifiés qu'ils côtoient chaque jour?
Bon, en fait, c'est la peur au ventre. C'est la crise générale, généralisée. D'autant plus que même si vous connaissez votre bourreau, vous ne pourrez pas vraiment le déclarer devant les autorités judiciaires, par crainte de l'insécurité, puisque aujourd'hui Nul n'ignore qu'en tout cas dans la région de Tombouctou, il y a l'insécurité, pas résiduelle comme d'autres le disent, mais c'est une insécurité constante. Tous les jours, des enlèvements, des assassinats, voilà, des victimes sont menacées. Par cela, nous ne pourrions pas vraiment faire des déclarations. Ce n'est pas possible. Donc, tant qu'il n'y a pas la sécurité pour nous, la justice malienne est allée un peu trop vite. Il fallait quand même qu'on attende, c'est vrai, un petit peu, pour que nous nous assurions de la sécurisation, de la protection, et puis pouvoir se déclarer, voilà, extrêmement justice. Vrai, à un moment donné, avec la FDH, la MDH, en tout cas, quand même, il y a eu des plaintes qui ont été faites, des éléments de preuve ont été constitués, et d'ailleurs, c'est là que ça a valu vraiment le dépôt de la plainte et la poursuite d'Aliou Touré, et notamment Mohamed Laki.
Ok. El Béchir Sangaré.
Oui.
Nous savons que Amnesty International est beaucoup plus actif sur le terrain. Alors, imaginez à qui le prochain tour pour le jugement.
Ah bon, nous ne savons pas parce que ça c'est le travail de la justice.
Logiquement.
Bien sûr, même les noms qu'on indique là, bon, nous ne pouvons rien dire parce que ils bénéficient de la présomption d'innocence. Il faut que leur culpabilité soit établie et qu'ils répondent des actes, mais nous ne les connaissons pas. Et je sais que l'État aussi avait fait, comment dire, c'est la Cour pénale internationale pour concernant les exactions. Bon, mais déjà, avec cette cour d'assises, le Mali a déjà montré qu'il peut juger ces bourreaux-là. Donc, c'est à la justice de faire le travail. Mais nous ne pouvons pas dire qui doit venir immédiatement, ainsi de suite. Parce que nous n'accusons personne. Nous savons quand même qu'il y a eu des exactions et qu'il y a des auteurs donc qui doivent répondre de leurs actes. Donc, c'est la justice qui doit faire le ménage pour que les auteurs soient traqués devant la justice et qu'ils soient condamnés et punis de leurs actes.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, retour sur ce plateau avec Baba Dakono, juriste, Mamadou Diara, sociologue, El Béchir Sangaré de Amnesty International et El Hadj Garba, secrétaire aux affaires juridiques, réseau régional des associations des victimes de l'occupation du Nord. Alors, l'arrivée de Fatou Ben Souda au Mali, à quoi s'attendre? Donc, nous allons suivre cet enrobé de la rédaction du studio Tamani.
Dans les prochains mois, dans les temps à venir, certainement, parce que le travail du bureau du procureur continue. Comme j'ai dit, et comme le bureau n'a cessé de le dire, l'affaire Al-Mahdi n'était qu'une première affaire dans une situation qui est grande sur l'ensemble de la criminalité alléguée, qui s'étend sur trois régions. On ne peut pas, bien sûr, se limiter aux crimes contre le patrimoine culturel, sans pour autant exposer les sources, qu'on y faut garder à l'esprit des questions sécuritaires préoccupantes. Mais c'est important pour savoir qu'effectivement le bureau ne peut avancer dans son travail s'il ne peut pas collecter des informations, s'il n'est pas en possession des éléments de preuve qui lui permettent d'intenter des poursuites et de traduire les responsables de ces crimes devant la justice. Évidemment, on peut toujours dire, vous le dites depuis quelque temps, mais on ne voit rien. Mais c'est le commun des enquêtes.
Alors, la CPI suit en fonction de la volonté de l'État. Est-ce que le blocage actuel, par exemple, avec le procès Sanogo, est le fruit de cette volonté, Monsieur Dakono?
Il faut quand même, je voudrais replacer un peu les choses dans leur contexte, comme celui qu'on vient d'écouter tout à l'heure, ce qu'il a dit, c'est que à la différence du procès de Al-Faki, c'est que lui, il avait plaidé coupable. Il a d'ailleurs bénéficié de circonstances atténuantes parce qu'il a collaboré tout au long de ce procès. Donc il n'y avait pas besoin fondamentalement de cette collecte d'informations, d'enquêtes préliminaires sur le terrain, puisqu'il y avait une forte collaboration entre le présumé et le bureau du procureur. Alors, à la différence des autres affaires, parce que comme il a été rappelé tout à l'heure par M. Garba, c'est que le Mali lui-même a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale. Donc, pour connaître de toutes ces affaires, le procureur doit préparer un dossier. Et ce dossier doit reposer sur des faits, sur des constats, sur des éléments qui découlent de l'enquête. Donc, il est tout à fait normal que la procureure, avec son équipe, se déplace sur le Mali. C'est pas une première. Et qu'elle puisse continuer le travail pour pouvoir présenter un dossier qui puisse avoir les résultats escomptés. Maintenant, je vois que vous êtes en train de faire le lien avec le procès du général Sanogo. Vous vous rappelez justement que ce procès tel qu'il avait été annoncé par le ministère de la Justice aurait dû être à une autre phase parce qu'il était prévu il y a déjà 3 mois que les prochaines assises allaient avoir lieu. Mais je crois que le gouvernement malien à travers le ministère de la Justice avait marqué un coup en organisant déjà, en lançant le procès à Sikasso, même si on a eu l'impression qu'après qu'ils n'étaient pas du tout préparés parce que au regard de tout ce qui est ressorti des discussions préliminaire. Et ensuite, on voit que le gouvernement tel qu'annoncé n'a pas été capable de tenir les délais. Donc ça porte déjà un coup à la première avancée avec le début du procès. Toute chose qui peut être amenée à douter de la capacité du Mali à poursuivre ce procès jusqu'au bout. Mais encore une fois, il y a des éléments dont on n'a pas tous les éléments en possession par rapport à cette affaire. Il serait hasardeux d'accorder cette incapacité à tel ou tel phénomène.
Ok. Alors, El-Béchir Senghare, donc nous avons ouï dire que, bon, des sources quand même près du dossier, que la Cour pénale internationale ne serait pas satisfaite quand même par rapport au retard accusé dans le procès Sanogo. Est-ce que Sanogo va-t-il être transféré à la CPI?
Non, mais je vous dis que la CPI est complémentaire de la justice nationale. Tant que la justice nationale peut juger et qu'on estime que tout est transparent et que c'est un procès équitable, la Cour pénale n'a rien à voir avec ça. En tout cas, pour ma part, on est déjà dans le procès Sanogo. Bon, il y a eu des incidents de procédure qui ont été tranchés à la faveur de la défense. Donc, il fallait une autre expertise pour voir si effectivement les tests ADN là correspondaient réellement ceux qui ont disparu là, ceux qui ont été tués. Donc, je crois que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. C'est mon avis. Donc, pour moi, le procès, ça nous a commencé. Donc, on attend d'abord, je crois qu'ils sont en train d'attendre le test, le résultat du test. Donc, c'est après ça qu'on peut dire que si vraiment ça a été... ils sont préparés ou pas.
Okay. D'accord. Alors, El Hadj Garba. Allô, Garba?
Oui, je suis à l'écoute.
Est-ce que vous pensez que la visite annoncée de Fatou Ben Souda pourra booster quand même les processus enclenchés ici au Mali? Ou bien elle sera obligée de récupérer ses jugements?
Bon, en réalité, la présence de Madame la procureure au Mali en mois de septembre prochain, vraiment, ça serait vraiment un bouquet d'oxygène pour nos victimes. Ça nous permettra d'édifier vraiment un certain point. Puisque, en réalité, le Mali, c'est vrai, c'est notre pays, hein, mais le mécanisme judiciaire pose vraiment problème. Vous le saviez, puisque tant qu'il n'y a pas de sécurisation, tant qu'il n'y a pas de protection pour les victimes, en tout cas, quand même, il serait très difficile au Mali de procéder à un de tels jugements, notamment les jugements des djihadistes ou les jugements de Sanogo. Ce n'est pas possible. Donc, il faut impérativement que la Cour pénale internationale prenne en charge ces différents dossiers-là. Okay. On ne doute pas de la compétence de nos magistrats, pas du tout, mais par rapport à la sécurisation qui pose problème, la sécurisation des témoins, la sécurisation des parties civiles, la sécurisation de tout le monde, même les documents en question. Donc, la présence de Madame la procureure au Mali, vraiment, ça va soulager certainement les victimes dans leurs mots de tous les jours. Et que vraiment qu'elle fasse la bienvenue.
Ok, d'accord. Mamadou Diouara, dans le cadre du procès Amadou Aya Sanogo, on voit que on a l'impression quand même d'être engagé dans un dilatoire, même si ce n'est pas le cas à tort ou à raison. Alors, est-ce que vous pensez que la justice malienne pourra quand même trancher ce cas-là?
Alors, merci. Je vais reprendre un peu les choses. Hein. Je pense que il y a quand même trois pas importants qui sont faits par l'État du Mali, en fait, qui sont faits pour montrer que en fait, le processus est en cours. Le premier pas, c'est le fait d'avoir annoncé, comme Baba l'a dit, le procès de Sanogo. L'État, de toute façon, a mis en marche l'appareil. Les coupables ont été appelés à la barre. Les charges retenues contre eux ont été prononcées. Et comme l'a dit Amnesty International, il y a eu des incidents de procédure qui ont fait que le procès a été repoussé. Le procès de Sanogo n'est pas un procès simple. C'est vrai que c'est dans la nature des victimes d'être impatients, d'avoir justice. C'est légitime. Mais c'est aussi normal que des procès pour des cas aussi compliqués prennent du temps. Sanogo, c'est une question politique, c'est une question... Il y a beaucoup de questions qui sont à prendre en compte dans son cas. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas du jour au lendemain faire ça à la va-vite, sinon ce serait un procès tronqué et qui serait décrété inéquitable et donc remis en cause. Maintenant, l'arrivée de... Le deuxième pas, ça a été effectivement le procès de Aliou. Ok. Et aujourd'hui, l'arrivée de Fatou Bensouda, comme Baba l'a dit, ça montre qu'effectivement, n'oubliez surtout pas que c'est d'abord l'État du Mali qui a saisi la Cour pénale internationale. Ça commence par ça. Aujourd'hui, si Fatou Bensouda vient au Mali, c'est parce que l'État du Mali le permet. Ok ? Voilà. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la procédure est en cours. Les questions que l'État du Mali estime être de la responsabilité de la Cour pénale internationale, le procureur de cette Cour est là pour s'informer et constituer les dossiers nécessaires afin de traiter ces dossiers-là. Maintenant, les dossiers que l'État du Mali estime être en mesure de traiter, il a commencé à les traiter. Donc, je crois qu'il faut que nous soyons davantage patients, mais toujours vigilants.
Mais vous pensez que la justice malienne pourra...
Je pense que la justice malienne peut régler le procès Sanogo, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Les débats ont été ouverts, ils ont été publics, jusque-là. Je crois que le report a été annoncé de façon publique. Les deux parties sont en train de constituer leur dossier. À ce que je sache, aucune partie ne s'est plainte. Qu'on ait entravé son chemin dans la construction de ces dossiers, sauf si je n'ai pas l'information. Donc, le processus est en cours. Maintenant, à nous d'être patients, de suivre et de rester vigilants pour que les choses soient tranchées.
Ok. Alors, Baba Dakono, est-ce qu'avec la mise en œuvre de l'accord pour la paix, est-ce que les autres pourraient être jugés par la CPI?
Les autres, c'est...
D'autres cas, par exemple, qui sont impliqués dans les événements du Nord?
Je crois que je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que l'un des objectifs de cette mission, c'est aussi pouvoir rassembler tous les éléments pour pouvoir faire face à la demande du Mali qui a saisi la Cour pénale internationale sur certains dossiers. Le procureur doit se préparer, elle doit faire face au juge avec des éléments qui puissent permettre au bureau d'avoir ce qu'elle demande. Et je voudrais, avant de terminer sur cette question, replacer quand même ce procès d'Alpha Ki et tout ce qui est fait par la Cour pénale internationale dans un contexte africain qui est marqué aujourd'hui par la volonté de plusieurs chef d'État africain de se retirer de cette institution en mettant en place une institution africaine et en démontrant la capacité des Africains à pouvoir juger eux-mêmes certains dossiers, comme ça a été fait avec l'ancien président tchadien au Sénégal. Donc, c'est un bon coup pour la justice malienne, ce procès de Aliou. C'est aussi une bonne publicité pour la Cour pénale internationale aujourd'hui, la condamnation d'Alpha Ki, son procès et cette visite visite et tout ce que cette institution internationale pourra faire en matière de justice au Mali pourra être mis à son crédit pour justement amener les gens à la percevoir non pas comme un cabinet où on juge les anciens chefs d'État africains, mais aussi qui s'occupe des questions de justice nationale qui ne sont pas prises en compte ou que les États n'ont pas capacité à gérer.
Mais dans le cas Alpha Key, on avait demandé d'étendre quand même les chefs d'accusation. Parce que bon, la destruction des mausolées, d'accord, mais d'autres chefs d'accusation devraient être retenus.
Bon, ça c'est le travail du, c'est ce que je vous ai dit, c'est le travail du procureur qui doit convaincre les juges du bien fondé de leur requête. Mais encore une fois, je reviens sur le fait que Alpha Key a été coopératif tout au long de son procès, qui a amené les victimes peuvent ne pas être satisfaites jusqu'au bout, mais sa coopération et sa collaboration avec la justice a amené l'atténuation de tout ce qui a été retenu de la charge retenue contre lui, mais aussi du verdict.
Ok. Alors, El Béchir Senghare, est-ce que vous pensez qu'avec la mise en œuvre de l'accord pour la paix, est-ce que vous pensez que la CPI pourra continuer avec d'autres chefs d'accusation?
Ouais, ben, l'accord pour la paix n'a rien à voir avec les actes criminels qui sont des attributions de la CPI. Ça n'a rien à voir avec ça. L'accord pour la paix, c'est la politique.
Oui, mais je parle là, en connaissance de cause.
C'est une crise qui perdure.
Oui. Oui, mais récemment, on a découvert des fosses communes, notamment dans la région de Kidal. Là. Donc, ça pourra forcément intéresser la Cour pénale internationale.
Très bon. Nous avons tous entendu ça. Bon, est-ce que c'est un chef? Parce que j'ai entendu le président de l'aménagement qui dit que bon, on ne peut pas parler de charnier pour le moment. En tout cas, c'est des fortes communes. Donc, il faut qu'on sache dans quelles circonstances ces individus ont été tués et rassemblés dans une fosse. Et qui sont les auteurs ainsi de suite. Est-ce que Fassou Ben Souda même serait allé à Kidal pour faire ces enquêtes? Ouais. Donc, en tout cas, le lien qu'il peut avoir entre la découverte de ces charniers et la venue de Fassou Ben Souda, moi je crois que tant qu'il n'y a pas l'administration ne retourne pas à Kidal dans ces régions-là, il serait difficile, n'est-ce pas, qu'il y ait des enquêtes fiables.
Ok. Voilà, merci beaucoup. Alors, oui. Mamadou Djouara, on a découvert des charniers, on a parlé des cas d'enfants soldats dans le Nord récemment. Alors, avec la mise en œuvre de l'accord, quel pourra être l'impact?
Je pense que l'accord a ceci de particulier, hein, que pour toutes ces questions, il a prévu des mesures. L'accord est clair à ce propos, c'est-à-dire qu'on est dans un processus de paix. Ce processus de paix contient plusieurs étapes. Autant il est demandé de discuter avec les différentes parties, d'avoir une approche inclusive dans la mise en œuvre de l'accord, autant il est clairement établi que tous les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes de viol, donc, sont déclarés imprescriptibles et qu'on ne peut pas avoir d'impunité face à ces crimes. L'accord prévoit un processus de justice transitionnelle qui, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma dernière intervention, est un processus par étapes. On établit la vérité, on confronte les parties, ok. Ensuite, on arrive au mécanisme de justice. Il y a les tribunaux nationaux qui sont en cours, en train de travailler. Il y a les tribunaux internationaux qui ont été saisis. Il est possible de créer des tribunaux spéciaux pour traiter un certain nombre de cas. Mais ce que l'accord a dit de façon claire et sans embâge, c'est qu'il n'y aura pas d'impunité. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, on est dans un processus. Suivons-le avec vigilance, un peu de patience. Et je suis sûr qu'à la fin du processus, on pourrait voir beaucoup de nos inquiétudes se diluer.
Ok. Merci beaucoup. Procès à Lyon à Mahamane Touré et Ahmed Al-Faki. Quel enseignement pour le Mali? C'était le thème du débat d'aujourd'hui. Babak Dakono, juriste, merci. Mamadou Diouara, sociologue, merci. El Béchir Sangaré de Amnesty International, merci. Et El Hadj Garba, merci. Il est de l'Association des victimes de l'occupation du Nord. Fin de cette édition réalisée par Moumine Sendebou. À la mise en onde, Salim Diouara, la régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara, Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré à la coordination.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mandi.
Chenne Berry. Sigi.